Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International. Vous êtes bien sur RFI et nous allons bien vous parler de ballon rond avec le retour des championnats nationaux puisque la trêve internationale est terminée. Les joueurs sont retournés dans leur club pour disputer donc des titres nationaux. En Ligue 1, les Parisiens face au Vert, un match qui sera aussi un dernier test, un dernier réglage déjà pour Thomas Tuchel dans 5 jours. En effet, cette équipe aux ambitions européennes jouera chez les Reds à Anfield. Que nous prépare donc le PSG avant ce déplacement dans le nord de l'Angleterre? Le match de demain sera évidemment plein d'enseignements, mais il se disputera sans Mbappé, le jeune attaquant puni de son impétuosité par 3 matchs après son carton rouge. Heureusement, il y a Areola dans les buts, en passe de devenir numéro 1, semble-t-il. À Nice, les Aiglons recevront des Bretons et ces Bretons de Rennes comptent dans leur rang un ancien Aiglon qui a compté sur la Riviera. Atem Ben Arfa, est-ce une bonne recrue pour le groupe de Sabri Lamouchi? En tout cas, ce match est très important pour Patrick Vieira dont l'équipe reste sur une seule victoire, c'était à Lyon. Enfin, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM, est-il de plus en plus important au sein du Champion Project de Franck McCourt? Prend-il de plus en plus d'ampleur dans ce club phocéen? En tout cas, il est en passe de prolonger avec un nouveau contrat. Enfin, les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine, J-1 là-bas en Afrique. Demain, Al Ahly, le club égyptien aux 8 coupes, jouera à Conakry face au Roya. Les Corbons aux 5 coupes iront eux à Luanda pour jouer contre les champions d'Angola. Invitée dans ce studio, une autre demoiselle. Hier, nous avions Karine Galli. Aujourd'hui, hier c'était une blonde, aujourd'hui c'est une brune. Bonjour Cindy Colmenares.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
La semaine prochaine, vous aurez Marlène Schiappa.
Si vous l'invitez, vous pouvez venir avec.
Oh, ça risque pas d'insulte à nos chroniques.
Marc Libra, aux côtés de Cindy. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. Ravi d'être là.
Patrick Juillard, Foot Afrique 365. Bonjour.
Toujours là. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Olivier Pron, vous l'avez entendu. Il est là donc. Bonjour. Salut, Olivier. Annie. Radio Foot, c'est parti. Chant pour faire un compte à rebours qui a déjà commencé pour le PSG. Ils doivent se préparer à l'écouter, ce chant. Les Parisiens sortir de 54 000 gorges des spectateurs d'Anfield à Liverpool. En l'occurrence, là, c'était l'année dernière. C'était au Celtic Park de Glasgow, puisque c'est aussi une autre ville où on chante ce très beau You'll Never Walk Alone. On le chante aussi du côté de Dortmund. Cette fois, donc, le Paris Saint-Germain jouera son premier match de la saison en Ligue des Champions à Liverpool. J-5, donc, pour cette équipe du Qatar qui rêve tout haut de la remporter, évidemment, la Coupe. Mais avant les étoiles, il y a le quotidien. Et oui, et pour le PSG, eh bien, c'est le championnat, la Ligue 1 qui reprend dès demain soir, après donc cette trêve internationale, cette belle affiche, le PSG contre les Verts, avec la rentrée européenne pour Thomas Tuchel en toile de fond. Mais pour l'entraîneur parisien, eh bien, il va falloir, on imagine, Marc, dès demain, on verra sans doute l'équipe type qui sera, sauf blessure et autre chose évidemment, mais celle qui sera alignée ensuite à Liverpool.
Oui, pas forcément. On voit que depuis le début de la saison, c'est quand même le seul entraîneur. J'ai toujours tendance à dire que pendant les périodes d'entraînement, on fait des réglages. Lui, il se permet de les faire, les réglages en match. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer à 3, passer à 4 en seconde période. Il s'amuse, quoi. Ils sont tellement forts aujourd'hui que j'avais jamais vu. C'était face à Caen ou c'était même face à Angers où il se permet de démarrer à 3 et puis après on passe. Voilà. Donc ça, voilà. Mais je suis pas vraiment inquiet par rapport à Liverpool. Certes, Liverpool fait un très bon début de saison. Mais après, je suis pas plus inquiet que ça par rapport à la poule. Tout le monde me dit, oh là là, Liverpool, ceci,
non,
cela.
Non, mais moi, je pensais au dernier réglage du Paris Saint-Germain.
Là, c'est sûr qu'il y aura.
Pour l'instant, il n'y aura pas. Il n'y a pas de réglage à faire puisque
C'est déjà réglé?
Moi, je pense qu'il y aura pas mal de réglages quand même. Je me permets d'intervenir par rapport à Neymar, simplement parce que...
Il va pas être titulaire, vraisemblablement.
Une des questions que l'on se pose, c'est que les Brésiliens, clairement, ils ont brillé là au Brésil, aux États-Unis d'ailleurs. C'est là où a eu lieu les matchs amicaux contre les Salvador. Donc il y a eu...
Et contre les États-Unis.
Exactement. Il y a eu donc d'abord une victoire contre les États-Unis 2-0. Et puis ils ont complètement éclaté la défense donc du Salvador.
Le très petit Salvador quand même.
Exactement. Donc, mais quand même, donc du coup
Ils ont tous pris l'avion.
Exactement. Donc Neymar et Marquinhos, donc il y a... D'ailleurs aussi marqué, Tuchel qui aime beaucoup préserver leurs joueurs, commence à se dire, bon, est-ce qu'on pourra quand même faire jouer? Il faut qu'on voit là, tout à l'heure en conférence de presse, il disait, il faudrait voir s'ils sont pas trop fatigués, on les ferait jouer. Donc, je pense qu'il va pas faire démarrer clairement Neymar, mais il sera éventuellement remplaçant. Je pense qu'il est fort probable qu'il les fasse jouer au cours du match.
C'est vrai, Cindy, je peux entendre ce que tu dis, mais aujourd'hui, le PSG est tellement facile que même avec ou sans Neymar, sans Marquinhos, c'est pas un problème. Ils se permettent, eux, de s'amuser, de dire, bah, on va démarrer à 3. Oh, ça a pas bien marché. Alors, on repasse à 4. Après, on se remet à... Enfin, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il y a tellement la puissance. Alors, Mbappé, certes, sera absent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que certes, si Neymar est pas là, ou... mais ça changera pas grand-chose. C'est une machine.
Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que même du côté des Saint-Etienne, ils les savent que c'est vraiment des attaquants qui sont très, très, très forts. D'ailleurs, pour quelques détails, donc, il y a 13 buts en Ligue 1. Du côté du Paris Saint-Germain contre les Verts 16 pardon contre les Verts c'est quand même assez extraordinaire
oui, c'est un peu
donc,
leur
et même 16 quoi sur la saison sur les deux sur la dernière saison
s'il y a eu des 6 et quels rappelle-toi ça avait été très compliqué
en fait il y a eu 16 derniers matchs donc des Ligue 1 il y a eu 36 buts inscrits par rapport
Ibra était pour beaucoup à l'époque avec Ruffier, rappelez-vous
mais enfin il y a une certitude et ça je pense que les joueurs de Saint-Etienne le savent et d'ailleurs l'attaquant Wavir Kasri les disait tout récemment ils ont une attaque très très forte et je le cite il ne faudra pas trembler face à eux parce que ils vont pas souvent avoir les ballons dès qu'ils vont l'avoir il faudra réagir très rapidement et marquer
mais le Paris
quoi
ça veut dire oui, Patrick donc que le Paris Saint-Germain peut arriver sans même avoir aligné le 11 de sa sélection européenne on va dire
contre Saint-Etienne oui
pour moi le problème du PSG sur ce match c'est pas un problème de niveau évidemment que même avec ses remplaçants le PSG peut battre Saint-Etienne sans problème.
Ouais.
Certes,
sans problème.
La marge est énorme.
La
difficulté du PSG, c'est de gérer les deux matchs rapprochés sans trop entamer ses forces lors du premier et sans non plus se mettre à douter si on ne veut pas trop les entamer. Donc en fait, il faut trouver le bon dosage.
Et garder les joueurs dans le rythme.
Et garder les joueurs dans le rythme, comme vous dites. Et donc c'est pas évident, mais pour moi, c'est plus un problème de gestion. Saint-Etienne, même si l'équipe est en progrès, même si elle travaille plutôt bien sous la houlette de Jean-Louis Gasset, qui connaît d'ailleurs très bien le PSG, hein, rappelons-le, je pense quand même qu'ils sont loin du niveau du PSG. Donc le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même.
Mais ils sont passés pas loin quand même, Saint-Etienne. Enfin, je suis tout à fait d'accord que les PSG est extraordinaire, ils sont la meilleure attaque.
C'est
pas moi qui vous dirai les contraires.
C'est au-dessus de Saint-Etienne, en tout cas.
Mais évidemment, mais il faut pas oublier qu'ils sont passés quand même à côté de la victoire Saint-Etienne et des très peu en avril dernier et c'était un but contre leur camp.
Ouais, mais donc, le PSG était déjà assuré du titre.
Vous venez de dire qu'ils avaient pris 36 buts en 16 matchs, si j'ai bien compris.
Oui, mais en fait, je veux juste, faut rester aussi clair. Clairement, les PSG au-dessus, il y a pas des doutes par rapport à cela, mais il faut pas non plus arriver et dire c'est complètement sûr, les PSG va les écraser.
C'est complètement sûr que le PSG peut battre Saint-Etienne sans Marquinhos et sans Neymar.
C'est ça.
Et que le PSG peut très bien se passer de Neymar et de Marquinhos demain et que ces deux types-là soient les hommes forts du match mardi.
Mais
ça sera Liverpool.
Mais Thomas Tuchel l'a dit, quoi qu'il arrive, je vais voir s'ils sont en état. Autrement, on prendra pas de risque. Mardi, il faut qu'ils soient présents.
Non, et puis
il y a une question peut-être qui reste dans ce 11 de départ, entre guillemets, mais ce 11 du Paris Saint-Germain, peut-être Patrick, c'est le fameux numéro 6. On sait que Thomas Tuchel, comme le Paris Saint-Germain, dans son ensemble, voulait un numéro 6. Est-ce que les doutes sont levés? Parce que là aussi, il a expérimenté pas mal de choses depuis le trophée des champions là-bas en Chine.
Les doutes ne peuvent pas être levés. Il est évident que le PSG avait un besoin important à ce poste, un besoin qui était anticipable depuis longtemps.
Mais ce que je veux dire, c'est que là, il va peut-être faire le test avant Liverpool.
Je vois pas qui peut tester de plus que ceux qu'il a déjà testés.
On va voir si Verratti est capable.
Donc Verratti revient dans le groupe.
Il sera là, de toute façon, Verratti, on vient de l'apprendre. Il est dans les groupes.
Oui, a priori, il va s'appuyer sur un tandem Rabiot-Verratti. Il reste à savoir comment ils vont coulisser ensemble, mais en gros, ça va être le duo vraiment au milieu axial. Après, il faut voir le rôle que peuvent jouer des joueurs comme Lassana Diarra. Mm-hmm. On l'apprendra pas forcément à Saint-Etienne, mais c'est quand même un joueur de banc, c'est-à-dire un joueur fait pour faire tourner l'effectif et reposer des titulaires plus importants. Et puis, il y a les petits jeunes. Bon, Bernet, je pense qu'il a été utilisé avant tout pour mettre un petit coup de pression aux dirigeants. Il n'est pas destiné, à mon avis, à jouer souvent maintenant. Et les autres, les Hensoki, c'est plutôt des joueurs de couloir défensif, quoi. Hein, donc
la question des deux défensifs aujourd'hui, elle se pose lors des grands matchs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir cravacher, parce qu'aujourd'hui on peut jouer à un ou deux défensifs, c'est-à-dire que quand on a Di Maria, Mbappé, Neymar, Cavani, croyez-moi, en face vous avez, il faut 6-7 mecs, il faut préparer 6-7 mecs pour eux. Donc si vous voulez, c'est vrai que la presse, non, mais deux défensifs. Si le PSG aujourd'hui se soucie, tiens, je vais jouer avec deux défensifs face à Saint-Etienne ou face à, comme le dit Patrick, on peut largement aujourd'hui mettre Lassana Diarra devant la défense, on peut laisser reposer Verratti pour la suite. Est-ce que franchement, face à Liverpool, on se dit aujourd'hui, ah, je vais mettre deux défensifs parce que j'ai peur de Liverpool? Je pense que le PSG aujourd'hui est très fort, ils doivent pas avoir vraiment. Alors, c'est un ancien Marseillais qui parle, pour moi. Non, mais vraiment, parce que
toujours on dit. Vous êtes légitime.
Non, mais toujours on me dit, ouais, t'aimes pas Paris, mais Paris aujourd'hui, ils sont supérieurs à Liverpool. Je suis désolé, qu'on le veuille ou non, ils sont supérieurs à tous les postes pour moi. Voilà.
Bon, sur le débat de Liverpool, on y reviendra.
La semaine prochaine. On rappelle que d'ailleurs, c'est une soirée spéciale, un mardi sur RFI. Ouais. On rappelle Liverpool, Paris Saint-Germain, Monaco, Atlético. Ça lance la campagne 2018-2019 de Ligue des Champions. Soyez là.
Mardi et mercredi, il y aura des soirées spéciales. En tout cas, dans les buts, vraisemblablement, hein, Thomas Tuchel va se sentir peut-être écartelé dans la suite de la saison. Mais pour l'instant, il va sans doute conforter Alphonse Areola. En tout cas, c'était le sens de ces propos après avoir découvert un Areola deux étoiles face à l'Allemagne et aux Pays-Bas.
Attention à la contre-attaque avant la frappe de Reus. Oh, la parade d'Alphonse Areola. Elle prenait la direction de la lucarne et belle envolée du gardien du Paris Saint-Germain.
Mais pas la frappe parfaite et la parade d'Areola qui était sur la trajectoire de cette très très belle frappe.
Avec Toni Kroos vers la tête de Mathieu Modric, à l'arrêt encore. Quelle parade encore d'Alphonse Areola sur cette tête allemande. Il les enchaîne, les arrêts, le gardien du Paris Saint-Germain.
Énorme. Attention à ce coup franc, directement dans les bras d'Alphonse Areola. Il est très sûr de lui dans ses sorties, et surtout les sorties aériennes, hein, le
très
gardien
applaudi,
du Paris Saint-Germain.
Très applaudi Alphonse Areola sur cette intervention. On sent qu'il a pris une nouvelle dimension.
Voici, bon, donc... On l'entend même à l'entraînement, Alphonse, vous entendez?
Il est fort. Et puis alors, hein, Bloquin, qu'est-ce qu'il est fort, il a des micros partout.
Alphonse, tu es là? Alphonse, tu es là?
1m95, qui se couche, hein, quand on lui envoie
les
ballons.
Des bras face au tentacule.
Et on l'a vu. Donc,
j'adore les tentacules.
Deux très bons matchs avec, donc, les Bleus. Ça n'a pas échappé, donc vous allez l'entendre à Thomas Tuchel, qui a envie, parce qu'en face, il y a quand même le grand Buffon, et bien, il a quand même envie de conforter Areola.
J'ai dit à Alphonse qu'à mon avis, il était en pole position pour être numéro 1 dans le club de sa jeunesse. Et Alphonse vient du centre de formation. Le PSG, c'est sa vie, c'est tout pour lui. Et il veut absolument faire ses preuves au PSG. Et c'est une situation qu'il faut respecter. Il va falloir qu'on capitalise dessus. Il faut qu'on soit fiers d'avoir des joueurs de cette nature. Parce que je suis convaincu qu'on a besoin de ces joueurs, de ce type de joueurs-là, parce qu'ils ont le cœur, ils ont l'âme du PSG. Et on a une situation un petit peu différente avec Didier Buffon, on a une légende, une idole d'Alphonse dans l'équipe à ses côtés. Ces deux joueurs ont des personnalités très marquées et il va falloir ensuite bien affiner les choses. Mais si on arrive à être intelligent, si on arrive à être généreux avec les deux, je suis certain qu'on va y arriver et je suis certain qu'Alphonse ne sera pas bon malgré Gigi, mais grâce à Gigi.
L'émulation de l'un envers l'autre, c'est du langage diplomatique.
Ça fait plaisir d'entendre
ça. Parce qu'il dit, j'ai dit qu'à mon avis, Alphonse est numéro un dans le club de sa jeunesse, le club de sa vie et tout. Mais il dit, à mon avis, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait des pressions pour qu'on lui dise, oui, mais il y a Buffon aussi.
Ouais, non, après, c'est de savoir exactement quand on prend Buffon, ce qu'on lui raconte, ce qu'on lui dit.
On sait déjà qu'il disputera pas 3 matchs de Ligue des Champions, donc
actuellement,
ça donne de la place à Areola.
Il y a rien à redire. Voilà. C'est Areola qui joue pendant 3 matchs de Ligue des Champions. Et puis après, on verra. Après, c'est vrai que, ce petit son de Guillaume est magnifique, mais si on se réfère aux Pays-Bas, il fait une belle boulette. Et la boulette, il a fait. Alors, certes, l'équipe de France gagne. On oublie dans le vestiaire, on va le charrier. T'as fait une belle boulette, mon garçon. Entre nous, les joueurs, on sait, on le charrie, mais on perd pas. C'est-à-dire qu'on gagne 2-1. Donc, on se réfère à ce match-là face à l'Allemagne.
On pense à la finale de la Ligue des Champions où il y avait eu une autre boulette. Donc, finalement, les grands gardiens.
On est d'accord.
Mais tout ça, c'est dur avec la boulette contre les Pays-Bas.
Si on fait un partout, comment on réagit? Comment la presse réagit?
Est-ce qu'il arrive lancé Babel?
Moi, je dirais pas qu'il y a boulette, je dirais qu'il ne s'est pas montré décisif, ce qui n'est pas exactement pareil.
Et qu'est-ce qu'on demande à un gardien de haut niveau?
Effectivement,
ce qu'il a fait face à l'Allemagne.
C'est déjà insuffisant, on est d'accord. Pour moi, Areola a fait pour la première fois face à l'Allemagne un match du niveau qu'on attend d'un gardien du PSG ou d'un gardien de l'équipe de France. Il ne l'avait jamais fait avant.
Il n'avait pas trop eu l'occasion pour ce qui est
l'équipe
de France.
Non, mais même quand l'année dernière au PSG, on nous a raconté l'histoire, qu'il avait été formidable. Non, il avait été correct, sans être exceptionnel. Et le problème des gardiens du PSG, depuis qu'on avait décidé que Sirigu était nul, alors que c'était un très bon gardien, n'était pas réglé l'année dernière.
Ça
fait longtemps que c'est pas réglé.
Si Areola maintient le niveau qu'il a montré contre l'Allemagne, le problème sera en passe d'être réglé. Mais là, le discours de Tuchel, il est conjoncturel. Il savait depuis longtemps que Areola devrait jouer les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc il est logique que dans son discours, il sécurise son joueur, puisqu'il sait que de toute façon,
c'est lui.
Bon ou pas bon, il n'aura pas d'autre solution.
Et puis, vous avez 3 matchs titulaires en Ligue des Champions, vous avez la main. S'il est bon, il gardera évidemment cette main, il introduira
le doute dans l'esprit de son entraîneur. S'il n'est pas bon, Tuchel va se dire, finalement, Buffon reste mille cran au-dessus.
Buffon, on lui a dit, tu vas jouer à Guingamp, tu vas jouer à Nantes, et tu vois, ça va être super.
Mais est-ce qu'il est encore si bon que ça, Buffon, au point de mettre en danger à Areola, qui représente quand même l'avenir de ce club?
Je pense que l'approche de très grands matchs de Ligue des Champions, Buffon la connaît peut-être plus qu'Areola. Par rapport à l'expérience, par rapport à ce qu'il va lui apporter.
Sur l'approche psychologique, oui, mais...
Non, mais après, les réflexes d'un gardien...
On l'avait vu parfois à la peine, quand même, la saison
dernière.
Oui,
c'est vrai que la saison passée, il y a 2 boulettes qu'on peut en faire Lloris, Est-ce qu'aujourd'hui, quand il va falloir faire un choix, parce que c'est toujours très compliqué, le rôle de gardien de but, c'est un rôle à part. Franchement, c'est très, très difficile, parce que il y a cette relation avec ces 2 centraux. Il faut que ça soit toujours les mêmes, les automatismes, la voix. Et là, quand on s'habitue à quelqu'un que d'un coup Thiago Silva ou Marquinhos, il faut changer, d'un coup c'est Buffon. Mais Buffon n'a pas la même gestuelle, n'a pas les mêmes réflexes, n'a pas la même sortie au pied, ne joue pas au même niveau, ne joue pas. Tout ça, il faut le prendre en compte. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, il va jouer 3. Et puis d'un coup, il a fait une petite erreur sur un match. Du coup, c'est Buffon qui prend la place. Mais Buffon est dans une autre configuration. Mm-hmm. C'est un gardien qui est un petit peu moins moderne qu'Areola, parce qu'Areola est très bon dans les sorties. Il joue peut-être un petit peu plus au pied. Mais quand on a Buffon en face, quand on est attaquant,
ça fait peur.
Alors qu'Areola, aujourd'hui, pas encore. Et même à 40 ans, il fait peur, quoi qu'il arrive.
Cindy, peut-être que Tuchel, doit sans doute connaître la situation passée au Paris Saint-Germain, ses errements parfois de Unai Emery, alors pour X raisons, peut-être aussi liées aux autres dirigeants, mais où on se souvient des problèmes entre Cavani et Neymar, et puis aussi des incertitudes entre Areola et Trapp. Là, peut-être qu'il veut aussi tout de suite donner le là.
Oui, je pense. Et puis, il est vrai que Tuchel a vraiment instauré une relation de confiance. On le voit bien dans sa relation, que ce soit avec les Brésiliens d'un côté, mais également avec Cavani. C'est un entraîneur qui est assez protecteur. Moi, très honnêtement, j'ai envie de dire faire confiance à cet entraîneur, parce que il est dans une démarche différente pour l'instant. D'ailleurs, là,
il a l'air assez carré.
Oui, là, par exemple, si Paris, c'est la Ligue 1, mais si Paris s'impose en Ligue 1, là, contre Saint-Etienne, il serait le premier entraîneur à devenir, à remporter les 5 premières journées des Ligue 1. C'est aussi, je pense que c'est important. Il y a des enjeux, en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'on va évaluer Tuchel face à son match du PSG Oui,
parce que les 5 premiers matchs, même si c'est une perf et que ça n'a pas été fait, encore une fois, dis-moi devant qui tu gagnes et je te dirai ce que tu veux.
Et ils sont à 40%.
Les joueurs du PSG sont à 40% surtout.
Le vrai test, c'est Liverpool. Mais
on est d'accord.
Je rappelle quand même que l'année dernière, on disait à la même époque, le vrai test, ce sera le Bayern fin septembre. Et puis, on a vu que le test avait été concluant. Et puis, 3 mois plus tard, plus rien n'était concluant. Et 6 mois plus tard, ils étaient sortis de la compète.
Donc voilà,
méfions-nous avec les tests. Mais Liverpool en est un, c'est sûr. Comme l'année dernière, on pouvait supposer que le Bayern en serait un.
En tout cas, ça sera un match, peut-être sans Neymar titulaire dès le début, mais qui rentrera sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera sans Kylian Mbappé, ce jeune attaquant un peu fougueux qui a écopé d'un carton rouge. C'était, souvenez-vous, lors du dernier match disputé par le PSG, c'était à Nîmes, dans ce stade un peu chaud, n'est-ce pas,
J'adore
Marc,
les postures. Ouais, à la bonne époque.
Et oui, dans les crocos, il y avait un des défenseurs des crocos, TJ Savanier.
Milieu de terrain, plutôt.
Milieu de terrain, pardon. Qui s'était un peu... qui avait fait un tacle un peu vilain.
Faute. C'était pas un tacle. Un tacle, il lui fait mal. Là, c'est pas un tacle.
Il a failli.
Il est engagé. Voilà. Mal, il part pour lui faire mal et après, il s'arrête. Bon. Mais il fait tomber. Il y a faute.
Souvenez-vous.
Il y a eu certainement un mauvais geste de Savanier et Kylian Mbappé qui va se faire exclure. Oui. Ça ternit cette fin de rencontre.
Si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi je peux pas tolérer ce genre de geste. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème, il n'y avait aucune intention de jouer le ballon là, on l'a tous vu, donc voilà, mais bon, c'est pas grave, j'irai me rendre à la commission et j'irai me défendre.
Un peu sûr de lui, le petit Mbappé, enfin petit grand, il a eu peur et il n'a pas pu s'expliquer ensuite devant. Non, il a eu peur du tacle, dit-il.
Il a eu peur.
Et mais il n'a pas pu ensuite, comme il le promettait, aller s'expliquer devant la commission, puisque lui, il joue avec les Bleus en Allemagne, donc on ne peut pas être partout à la fois.
De toute façon, le mal était fait, la déclaration était faite.
Et... ça lui a coûté cher et ça lui a sûrement coûté, Olivier, 3 matchs.
Il a tout de suite
appliqué le tarif, quoi.
C'est ce qu'il doit apprendre à 19 ans. Heureusement qu'il a encore des défauts, Et heureusement, dans sa com et sur le terrain, Marc Libra, heureusement qu'il a encore des défauts. Il faut bien que de temps en temps, il y ait quelque chose qui fasse nous dire, allez, tapons-lui un peu dessus.
Ça lui donne une aspérité.
On a tellement envie de, mais bien sûr qu'il a une réaction de môme. Il a peur de prendre un mauvais coup. À l'arrivée, il a une réaction de môme, mais surtout.
Il a encore plus une réaction de môme.
Alors, on va pas dire qu'il faut qu'il soit entouré, parce que quand ces joueurs sont trop entourés, leur communication est tellement aseptisée. Là, vrai que le mal est fait quand il dit si c'était à refaire, je le ferais. Là, boum, on sait qu'il va prendre deux ou trois matchs.
Moi, ça me gêne pas. Je trouve qu'il est sincère.
Quand
lui-même, il donne son état d'esprit. Donc moi, j'aime mieux ça que de la langue de bois.
Ah non, mais on critique souvent au PSG d'ailleurs, parce que la communication en effet est très aseptisée. Donc on préfère la réalité.
Il savait qu'il prenait son risque en disant ça. Il l'a fait. Bon, tant pis pour lui. Peut-être que la prochaine fois il le refera pas. Mais au moins là, on a eu la vérité du moment. Il s'est exprimé.
Et il faut pas oublier qu'il grandit. Il grandit face à nos yeux. Donc on va être là pour les juger quand il fait du bien, quand il fait du mal. Enfin, faut aussi laisser les joueurs faire. Il a de l'influence, des très grands joueurs aussi, avec leur caractère,
il est très près. Et avec les joueurs d'à côté, il n'est pas forcément aidé. Avec Neymar,
Non, mais il peut être aussi influencé, ça reste un jeune. Donc c'est tout à fait normal.
Marc, ce qui a pesé aussi, c'est qu'il avait déjà eu un carton rouge en début d'année, on va dire, donc c'était la saison dernière.
Ouais,
on a cherché un Coupe de la Ligue. Non, Coupe de la Ligue face à Rennes, nous on a
trouvé. C'était Sarr.
Exactement.
Qui jouait à Metz à l'époque, c'était pas ça, c'est pas le même. Ah non,
non,
bah
d'accord. Non, à Rennes la saison dernière, autre geste d'humeur et
là
et
par donc, contre par contre
là il... aussi carton rouge.
Par contre là, il a pas eu peur par contre parce qu'il dit j'ai eu très peur. Par contre, dès s'essuie la semelle pour blesser le mec au niveau du mollet.
Là, donc, il était vraiment en faute.
Ah ben là, c'est une agression pour blesser gravement. Donc après, quand il est capable presque trois quarts d'heure, une heure après, de venir et d'avoir l'aplomb nécessaire pour dire « moi, je regrette rien », je pense qu'il faudrait mieux de se taire. Je pense que les leaders dans le vestiaire feraient mieux essayer de le prendre par les cheveux. Il n'y en a pas beaucoup, mais le soulever un petit peu pour lui dire « écoute, il faut que tu dégonfles un petit peu le melon, mon garçon, parce que c'est pas possible de faire ça ».
Bon, ça va tant qu'il ne se roule pas par terre comme Neymar,
Non, mais c'est pas le problème. À un moment donné, on peut pas lui dire « non, ça marche plus, ça, c'est désolé, c'est le problème ».
premier à crier haut fort. Moi, la jeunesse, j'en ai rien à foutre. Je suis le meilleur. Je
joue. Pas quand on lui rappelle
son âge. Il a un ego surdimensionné qui peut-être va avec son talent, mais aujourd'hui, il peut pas se permettre. Il y a des lois, il y a des arbitres. Donc lui, il est au-dessus des lois. Si t'es au-dessus des lois, trois, c'est gentil. Il doit en prendre 10 de match.
On parle toujours d'Mbappé, bien sûr
qu'on parle d'Mbappé. Mais c'est pas possible de faire ça.
Je suis désolé, c'est pas un ego surdimensionné. Il a fait un écart. Ok, mais dès là à dire que, enfin, on parle pas des. Je pensais les 5 secondes qu'on parlait des Neymar.
Cindy, tu m'as sûrement pas joué.
L'ego surdimensionné, c'est Neymar, oui. On est d'accord.
Oui, clairement. Enfin, et je respecte ces joueurs, mais il faut l'avouer que c'est son talent d'Achille et tout le monde le sait. Mais dès là à dire que Mbappé a un ego surdimensionné, ça, je suis désolé, je peux pas l'entendre.
Ah, mais si, aujourd'hui, il a un ego surdimensionné. Quand on est capable à 19 ans de venir dire, moi, j'en ai rien à faire. Je m'excuse auprès des supporters et pas du mec qui l'a fait. Donc, aujourd'hui, c'est malheureusement un gros problème. Donc, si malheureusement, on n'est pas capable au PSG de l'expliquer comment ça fonctionne, et la jeunesse ne marche pas.
Messieurs, on va faire une pause pour permettre à Marc Libra et cette demoiselle de s'expliquer. On revient dans 5 minutes. Mettez-nous
pas du tout. Ce que peut faire, par contre, Mbappé, c'est aller lire, eh bien, l'interview dans le très bon journal L'Équipe de Mathieu Valbuena, qui lui enseigne sa méthode zen, parce que lui aussi, il reconnaît qu'il avait du mal à se maîtriser.
Non, c'est très drôle. C'est la méthode zen pour simuler, non? Pour simuler une fois.
Non, c'est une plaisanterie. Mais en tout cas, il y a vraiment une interview. Patrick, moi, je voulais juste prolonger par une question. Est-ce que c'est gênant pour la Ligue des Champions que Mbappé ne joue pas samedi?
Non, pas du tout. Au contraire, il sera plus frais.
Parce qu'il a joué en équipe nationale.
Mbappé, il a déjà, je trouve, un bon rythme.
Il est jeune en plus.
Il fait à peu près le match complet dès maintenant. C'est-à-dire, il m'a l'air de s'être bien préparé. J'ai pas senti que les fins de match, il était sur les rotules. Donc, le fait de pouvoir un peu souffler ce week-end et avoir les batteries bien chargées au début du match à Liverpool. C'est presque tout bénef. Hein. Alors le PSG, on espère pour eux qu'ils seront pas en difficulté, qu'ils auront pas besoin de quelqu'un pour sortir du banc, parce que Mbappé aurait pu être quelqu'un sur le banc qui sort pour les 20 dernières minutes si son club est en difficulté.
Les risques, c'est côté milieu défensif, parce que les risques du PSG.
Je pense quand même, je répète, le PSG, s'ils prennent le match sérieusement et que les joueurs rentrent bien dedans, ils ont le niveau pour battre Saint-Etienne.
Un match ne lui manquera pas dans les jambes.
Je pense pas.
On continue avec cette autre affiche qui va vous plaire, évidemment, Patrick.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Parce que maintenant, on a des matchs tout le temps. Hein. Alors, on en a deux le vendredi soir pour le prix d'un. Avant, on en avait qu'un, on en a deux. Donc, bon, il y aura ce Gym Stade de Rennes, juste avant le PSG. Un match très important pour les Aiglons et sans doute encore plus pour leur entraîneur, Patrick Vieira. L'équipe a bien mal débuté le championnat, on le sait. Elle a la 17e place. 4 matchs, 2 défaites, 1 nul, 1 seule victoire. Mais une victoire à Lyon et c'était le dernier match. Patrick, est-ce que du coup c'est bon pour les perspectives des Aiglons?
Ce match de vendredi est très important puisque l'OGC Nice pour l'instant a perdu ses 2 premiers matchs à domicile au Stade Duret, ce qui est au Stade Duret. C'est un lapsus.
Le Stade Duret n'existe plus. Le Stade Duret et c'est désormais Riviera, on va
c'est
dire.
C'est là que j'ai grandi.
La Riviera de.
J'ai usé mes fonds de culotte sur les
vieux beaux
dans les artères du Stade Duret. Bref, dans les coursives du stade. C'est important parce que l'OGC Nice a perdu ses 2 premiers matchs à domicile. Donc si jamais le résultat est mauvais demain, ça voudra dire que on envoie un signal très négatif aux supporters. Ça annoncera vraiment une saison pourrie, disons-le clairement. Maintenant, effectivement, l'équipe s'est bien redressée à Lyon en allant gagner là-bas.
Oui, c'était quand même pas.
Certes, en profitant d'un match assez indigent de l'Olympique Lyonnais, mais encore faut-il pouvoir le faire, hein, puisque bon.
Oui, Saint-Maximin.
Voilà un but avec un peu de réussite, mais beaucoup de fougue et de talent de Saint-Maximin qui a pris sa chance.
Surtout, oui.
Et donc surtout, demain, c'est un match d'autant plus important pour Nice que c'est le retour à l'Allianz Riviera d'Atem Ben Arfa. On ne sait pas s'il va débuter ou pas.
Après.
Mais
dans le camp d'en face.
Dans le camp d'en face, donc il y a une volonté vraiment de montrer qu'il est maître chez soi. Donc voilà, pour Patrick Vieira, il faut vraiment maintenant un résultat à domicile. C'est indispensable.
Patrick Vieira commence la saison sur des défaites. Marc, donc, enfin, 3 mauvais
Reims
résultats, on va dire.
Le Dijon, il fait mal, 4-0.
0 buts marqués, 5 buts encaissés.
Il a aussi, parce qu'on parle tout le temps de Monaco, mais lui aussi a beaucoup perdu. Alors évidemment, Lucien Favre énormément. N'est plus là, mais il a perdu beaucoup de bons joueurs dans cette
équipe. Il a perdu les cadres, lui il a perdu l'ossature, c'est-à-dire les séries, les playas, toute l'ossature. Donc c'est très compliqué.
Il y a des circonstances atténuantes à Vieira.
Exactement, il faut lui laisser du temps. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un très bon coach, mais il faut tout reconstruire. Alors là, je pense que on se cache un petit peu en disant Balotelli va nous sauver, mais Balotelli ne sauvera rien du tout. Bien Balotelli sûr. Fera ses matchs dans les grandes rencontres.
Il les a sauvés pendant les deux dernières saisons quand même.
Ouais. En tout cas, sur ce mais pas sur tous les matchs, Annie. Sur
non,
certains
mais il les a
matchs,
sauvés quand il fallait.
Les grands matchs. Mmh. Ceux qui sont le dimanche
un
soir.
Un peu plus que ça, Marc.
Ouais, je suis un peu dur.
Sur la deuxième saison, c'était mieux quand même.
Il a décidé d'être dur avec tout le monde.
Là, on parle d'attaquants, mais parlons aussi des gardiens de but. Du côté du Nice-Lyon, c'est vrai que c'était la première victoire du coup des Vieira sous l'ère Vieira. Et il y a Benitez. Si on fait la comparaison avec Favre, donc qui était l'ancien entraîneur et puis dont les nouveaux entraîneurs Vieira, Favre faisait souvent jouer Benitez là où Cardinal avait été utilisé donc lors des deux défaites par Vieira.
On se souvient des problèmes de Cardinal, effectivement.
Oui, et donc là, celui qui devrait être choisi comme titulaire pour les prochains matchs, c'est les Benitez.
Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Cardinal n'est pas dans le groupe.
L'Argentin qui a fait des très belles performances. Les Lyonnais ont fait quand même 29 tirs, il en a fait 9 arrêts, donc des très 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 bonnes, donc je pense des beaux arrêts, et c'est notamment une des Fekir, et surtout c'est un espoir du côté argentin, c'est vraiment un gardien au nord.
Je suis d'accord avec Cindy, l'Argentine a peu de très bons gardiens, et Benitez est intéressant. Alors moi je trouve que c'est quand même un gardien qui a un petit peu de mal à sortir de sa surface de but. C'est un gardien qui a un bon gardien sur les réflexes, sur la ligne. Pour moi, il doit encore un peu plus devenir le patron de sa surface, de plus s'imposer physiquement, parce qu'il a du physique, il devrait plus s'imposer, mais effectivement, il est plus sécurisant pour sa défense que le Cardinal qu'on a vu en début de saison. Et d'ailleurs, la saison dernière, déjà, en début de saison, Favre avait plutôt fait confiance à Cardinal, et Cardinal avait, comme cette saison, perdu sa place sur une blessure. Avant un match.
Oui, en 2017. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a profité de cette chance. Moi, je pense que Benitez, c'est vraiment un joueur.
À mon avis, il va rester titulaire maintenant.
Oui, c'est un joueur qui est arrivé un peu en doublure, de façon assez humble. Et puis vraiment, c'est imposé. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un colosse d'1m91. Enfin, je l'ai dit depuis mon 1m60. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment très fort pour faire des sorties aériennes assez impressionnantes. Donc, je pense qu'il a bien sa place.
Mais
et
il doit faire mieux.
Ça
là-dessus.
Peut jouer dans les sens des Nice.
Oui. En tout cas, on en parlait souvent. De Cardinal, et c'est vrai qu'il n'est toujours pas convaincant.
J'ai l'impression qu'on mange bien à Nice, parce que Cardinal comme Balotelli ont le même problème, si je résume un peu.
Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. Balotelli,
faut fermer la cantine.
Il était Balotelli, rappelons-le, il était suspendu pour les trois premières journées de Ligue 1, et en plus il a une préparation, il est venu en retard, revenu avec deux semaines de retard. Enfin,
c'est surtout qu'il voulait partir.
Voilà,
pour lui, il était plus à Nice.
Enfin, il paraît que l'OM n'en voulait pas du tout maintenant. On a appris.
Bon. Alors, dans le groupe des Bretons, vous l'avez dit, Patrick, eh bien, il y a un certain Atem Ben Arfa. Il revient sur un terrain, on va dire, qu'il connaît très bien. Lui qui a été quand même porté par ce public lors de son retour d'Angleterre, on s'en souvient. Eh bien, il leur a envoyé un petit message aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les supporters de Nice qui scandent le nom de Atem Ben Arfa, qui avait fait une saison pour eux sans doute inoubliable, et il a mis ce petit message: j'ai toujours eu une relation passionnelle avec les supporters qui sont l'essence même du football. Alors c'est une manière de dire, bon, je suis rennais, mais en même temps je pense aux Niçois, et j'espère qu'ils vont venir me siffler.
Mais voilà, exactement,
c'est surtout
ça. Je pense que Atem Ben Arfa est un jeune de son époque, il lit les réseaux sociaux, il lit les Instagram, les Twitter,
il n'y a pas besoin d'être jeune, je crois.
Voilà, mais en particulier, et je pense qu'il a bien vu que la grande question des supporters de niçois, c'est: faut-il siffler Atem Ben Arfa s'il joue vendredi à l'Allianz, quoi.
Parce qu'il a failli revenir dans l'équipe, et c'est ce qu'aurait aimé Patrick Vieira.
C'est un profil qui est intéressant parce qu'il sort un peu du profil qu'on a. On a essayé de le faire, ça n'a pas pu se faire. Atem a fait son choix et je le respecte, on l'a respecté et on le garde vers l'avant. Moi, j'espère qu'il sera bien accueilli. C'est un joueur qui a passé une année ici, il a passé vraiment une belle année, où il a joué son meilleur football. Il était dans les conditions idéales, il a eu le soutien du club, des supporters, ça lui a permis de faire une très belle saison, et j'espère qu'il sera bien accueilli. Après, qu'il joue d'entrée ou qu'il rentre en cours de jeu, peu importe.
Le message est clair, il faut bien l'accueillir. En tout cas, son petit message sur Instagram, pour ne pas le citer, a déjà à peu près 120 000 vues. Donc, c'était quelque chose qui était voilà assez recherché. Alors, est-ce qu'il sera sur le terrain ou pas ? Bah, sûrement pas titulaire, si on écoute bien Sabri Lamouchi.
On ne peut pas, en si peu de temps, rattraper le retard et le manque de rythme qui est le sien. Pertem, c'est un joueur de compétition. Vous êtes curieux de savoir s'il va commencer les matchs, mais Athem n'a pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe. C'est un garçon qui, sur une seule situation, peut déclencher quelque chose et vous donner une victoire. Mais on arrivera assez rapidement à voir Athem dans les meilleures conditions.
Avoir Athem dans les meilleures conditions, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Marc, ce Athem Ben Arfa, c'est un peu une ombre.
On rappelle que son dernier
ça.
Match, c'est mars 2017. Hein. Ça fait quand même 18 mois.
Non, c'est le
mars 2017.
C'est en 5 mai, avril.
Non, mars 2017.
5 avril, 527 jours. Il faudra vérifier, mais je crois que c'est un superbe but en Coupe de
Je maintiens mon mars 2017, monsieur Libra.
On va te demander, mais je crois que c'était le 5 avril.
Bon, c'est pas grave. En tout cas, avril, mars.
527 jours exactement ouais. D'une compétition.
Non, mais surtout, bon, en s'entraînant avec la réserve, on a tout suivi d'Athènes Bernard. Ouais. Mais maintenant, il a 31 ans, hein, je me trompe
oui, 31
pas.
Ans.
Dans quel état peut-il être, Marc, vous, l'ancien professionnel ? Est-ce qu'on peut dire, à la limite, qu'il s'est économisé comme ça, il pourra jouer jusqu'à 36 au lieu de jouer jusqu'à 35.
Comme la vieille dans Don Camillo, là.
Oui. Non, mais je...
Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce qu'il a encore faim ? Est-ce qu'il a encore envie ?
Ben, je pense qu'il a faim de certaines choses, puisqu'il est capable de rester un an au PSG pour avoir un très gros salaire et se priver de jeu, puisque les bases étaient établies
et
depuis
des
un an. Oui, voilà. Non, mais moi, j'ai fait un choix de carrière. Je gagnais 100 fois moins que lui et je ne pouvais pas rester sur un banc. Donc, je suis parti. J'ai fait des choix dans ma carrière qui ont été du simple au, enfin, j'ai même perdu de l'argent sur des, mais c'est pas grave. Je voulais jouer. Lui a fait un choix. Aujourd'hui, il a décidé que Rennes avait les ambitions financières pour pouvoir le récupérer parce que Nice voulait le récupérer, mais il n'y avait pas assez d'argent au bout. Donc, finalement, il est parti à Rennes.
Que d'argent,
Marc, je nuancerai un peu. Alors, effectivement, aussi... Rennes a su faire vibrer sa corde, son portefeuille, mais je pense aussi que Athem Ben Arfa n'a pas été très engagé par le début de saison de Nice, hein, qui était pas terrible. Et il s'est dit, je sais pas trop où je mets les pieds si j'y retourne. Ouais, ça pourrait peut-être mal se passer. Donc, Rennes lui a semblé plus sûr, à mon avis. D'après ce que j'ai.
Il y a aussi une aventure européenne à la
D'après
clé,
ce que j'ai entendu de son entourage, voilà.
Bon. Oui. Après. Donc, on peut pas savoir parce que autant de temps sans jouer, il avait pas de pression parce qu'on peut s'entraîner avec la réserve, on peut faire des matchs amicaux, mais on n'a pas la pression. Là, la presse en parle, il est en photo tous les jours, on l'attend. Il peut se blesser de suite ou alors il peut jouer sans problème. Mais ce que nous dit Lamouchi, c'est clair. Il va jouer 10 minutes, un quart d'heure et puis on verra ce qui se passe. Aujourd'hui,
Marc,
l'équipe de Rennes, elle tourne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une aussi c'est belle vrai. Équipe
en tout
de
cas,
Rennes.
Lamouchi, il a c'est aussi vrai. Dit pendant la conférence de presse, il a bien dit les choses sur les 90 minutes, mais il a dit, attention, pour moi, je suis sûr qu'il va revenir au niveau. Moi, je pense particulièrement que l'histoire de Ben Arfa, c'est du gâchis. Comment un joueur, je pense qu'on est tous d'accord.
Ça fait 10 ans que ça dure.
Mais Lamouchi voit, en tout cas, de toute façon, sinon il n'aurait pas été recruté, il voit en tout cas que ces joueurs peuvent revenir au niveau et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Et Lamouchi,
c'est
là, c'est une Lamouchi voit aussi que le Paris Saint-Germain vient à Rennes le week-end d'après. Et que c'est un autre. Il enchaîne Ben Arfa, ouais, possiblement, c'est avec ses deux anciens clubs et autant avec Nice. Bah, on peut espérer qu'il ne soit pas sifflé et qu'il soit bien accueilli parce qu'il avait fait quand même une très belle saison, 18 buts, 34 matchs, quelque chose comme ça.
Il a laissé une très belle image.
Mais Olivier Rouget, je pense qu'il aura d'autant plus envie de leur montrer.
L'équipe de Rennes aujourd'hui, Ben Arfa, il joue pas dans l'équipe. Elle est très bien rodée offensivement. Ils sont très. Non, mais sur les derniers matchs face à Bordeaux, tu as vu les 35 points mis face à Bordeaux. Ben Arfa ne joue pas aujourd'hui dans le système de jeu de Lamouchi.
Ce qui est peut-être de rassurant avec Ben Arfa, c'est que dans ses malheurs, en tout cas, de club, d'être vendu, d'être blessé, tout ce qu'on sait et tout, il n'a pas perdu quand même son talent.
Ça se perd pas, ça.
Patrick.
Non, et surtout, je pense que le choix.
On l'a vu à Nîmes, on l'a même à Nice et on l'a même vu, allez, quelques secondes, mais on l'avait quand même vu avec le PSG.
Non, mais il ne perdra pas, ça. C'est-à-dire qu'il a le dribble inné, ce garçon, il a toujours le dribble
c'est le
juste.
Rythme qu'il a perdu.
Et c'est surtout, c'est un soliste, mais c'est un soliste qui sait finir ses actions. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui initient des choses superbes et qui font le dribble de trop, qui font pas la passe au moment. Ben Arfa, lui, il est tueur. C'est-à-dire que il commence une action, il dribble deux joueurs, il va faire la frappe qu'il faut, placer le ballon là où il faut. Il a un sens du but exceptionnel.
Oui.
Et puis surtout, le choix de Rennes. Et effectivement, l'équipe tourne bien sans lui sur le début de saison. Mais rappelons-nous, l'année dernière, Rennes jouait avec un faux neuf, un faux avant-centre, Wahbi Khazri. que le club n'a pas gardé, ils ont pas pu s'entendre et Cazeri est parti à Saint-Etienne. Oui. Et Ben Arfa, il a tout à fait le profil pour jouer dans le même registre. C'est-à-dire une sorte de 9,5 d'attaquant de pointe, meneur de jeu, finisseur, meneur, un peu comme Cazeri.
Il a une place
et
qu'il attend.
Il peut tout à fait s'intégrer dans ce que veut Sabri Lamouchi. En plus, bon, ils sont tous les deux franco-tunisiens. Il y a une proximité un petit peu de tempérament. C'était un peu le même type de joueur, Sabri Lamouchi, n'oublions pas, quand il jouait. Donc, je pense qu'il y a...
Tout pour s'entendre.
Ils ont beaucoup pour s'entendre, oui.
Un dernier petit détour par cette Ligue 1 et Marseille, évidemment.
Ah, ouais, j'ai bien fait de venir. Je croyais qu'on allait l'oublier.
Marc, et là, on va un petit peu parler de Marseille. Marseille, cinquième place. D'abord, on commence par une victoire. Après, bon, on se perd un peu. À Nîmes, notamment, n'est-ce pas? Ce nul face à Rennes.
J'ai pas vu le match. Hein, je me rappelle pas.
Et puis, les Marseillais, vous avez vu le dernier.
Oui.
Les derniers, ils sont menés. Ils sont menés à Louis II et ils gagnent à Monaco. Alors, juste une question autour de ça. On voit que Rudy Garcia est sur le point de prolonger son contrat.
Ouais.
Rudy Garcia est-il finalement l'homme parfait, le relais parfait entre le staff, héros bien sûr, mais et les joueurs? Est-ce que c'est plus qu'un entraîneur et presque un manager à l'anglaise, ce Rudy Garcia?
C'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rudy Garcia est un entraîneur qui a su faire jouer l'Olympique de Marseille la saison passée, parce que
avec peu de moyens,
avec
humains,
très peu de moyens.
Dire.
Mais ce qui est fou, c'est que cette saison on démarre, on se pose les mêmes questions. Comment il va faire pour essayer de faire jouer ces joueurs-là? Parce que là, la plupart des joueurs, parce que qu'on connaît un peu, les joueurs sont improbables qui sont arrivés. Hein. C'est, enfin, pour moi, certains, c'est... Donc, on va voir. Et l'année dernière, il a eu cette magie. Il a été capable de les faire jouer avec un grand Luis Gustavo qui a été énormissime. Est-ce qu'il va être au même niveau? Avec un très grand Thauvin qui, à mon avis, repart sur les mêmes bases. Donc, cette équipe a joué. Mais est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. En tout cas, il a été capable de s'en passer, de faire quelque chose de grand. Et je pense que les joueurs l'apprécient énormément et le suivent.
C'est maintenant, ça qui lui donne du pouvoir?
Oui.
Mais d'ailleurs,
oui,
il a jamais eu autant de buts marqués. Enfin, l'attaque des Marseillais est devenue énormissime. C'était depuis 1970 qu'on n'avait pas vu l'OM faire autant d'attaques la saison dernière en Ligue 1.
Ouais, donc, le problème, c'est qu'il marque pas. Non, mais, par exemple, en finale.
On voit effectivement une emprise.
Oui, mais
de
il
Rudy.
Les amène quand même en finale des Ligues. Justement, oui, il les amène quand même en finale des Ligues Europa.
Oui, c'est quand même une histoire incroyable.
On voit une emprise de Rudy Garcia sur les choix sportifs de ce club. Exactement. On a normalement un triumvirat puisqu'il y a Jacques-Henri Hérault, le président.
Antero Henrique.
Andoni Zubizarreta, directeur sportif, ouais. qui a la haute main sur les transactions et le recrutement, et Garcia, qui est entraîneur. Et en fait, c'est plutôt Garcia qui indique les joueurs qu'il veut, et Zubizarreta, il a un rôle plus de validation qui entérine les choses, mais c'est pas lui qui impulse. Donc, on voit que Garcia a un rôle moteur là-dedans. Et pour l'instant, ça marche. Maintenant, on va voir si ses choix, Caleta-Car en défense, Radonjić, c'est quand même à deux, c'est plus de 30 millions d'euros. C'est beaucoup, même
et si tu mets
pour des jeunes
ça
joueurs.
Fait 60 millions.
Bon, Strootman, je pense qu'on est à peu près certain qu'il a largement le niveau pour la Ligue 1. Les deux autres, j'attends de voir.
C'est vrai.
Donc, c'est pour moi encore, c'est en perpétuel questionnement, mais effectivement, pour l'instant, il arrive à donner une assurance collective à cette équipe qui est très forte, quoi.
Surtout et d'ailleurs, il y a une victoire, c'était son centième match lors de cette victoire contre Monaco. Et là, lors du prochain match, ça sera son 300e match. En Ligue 1, les autres entraîneurs qui ont fait plus des matchs que lui, en tout cas qui ont plus d'expérience à leur actif, il y en a juste deux en Ligue 1, notamment Camboré, puisque justement ils vont jouer contre l'entraîneur de cette équipe là très prochainement, contre Guingamp.
Oui.
Pour ce qui est de Guingamp, démarre plutôt mal, quoi.
Cette année,
zéro pointé pour l'instant.
Ils ont perdu Grenier notamment. En tout cas, Rudy Garcia, il le sait, cette année il faut décrocher une place en Ligue des Champions, et donc ça sera un des objectifs. Vous parliez de Luis Gustavo, il y a un très beau mur qui a été peint, un pochoir qui a été dans les rues de Marseille. Exactement. Très très beau.
Je suis jeune.
Ça tourne sur les réseaux sociaux. Allez, un petit crochet maintenant vers l'Afrique. Puisque la Ligue des Champions, si elle est en milieu de semaine en Europe, eh bien, elle est les week-ends en Afrique. Quart de finale, Olivier, on en est au quart de finale. Et dès demain, surtout, c'est même pas J-5, c'est J-1, pour deux clubs importants que sont le Oroya et Al Ahly.
Que des affiches de feu, Annie, en quart de finale, on vous l'a dit. Mais c'est vrai que demain, Oroya Al-Ahly, le national du Caire, comme on pourrait dire
vous
tout simplement.
Vous dites comme ça, moi je dis Al-Ahly.
Non, oui, on peut dire les deux, c'est juste que ouais. C'est plus facile à prononcer. C'est le grand écart, c'est le record de
On peut dire
de
les
victoire.
Diables Rouges aussi.
Voilà, allez.
Si vous voulez.
Je continue. 8 Ligues des Champions d'un côté, 0 de l'autre. C'est la première fois qu'Oroya atteint les quarts de finale. Oroya, on a envie d'y croire à ce petit club d'Afrique de l'Ouest, qui est pas petit d'ailleurs, hein, qui est un des gros clubs d'Afrique de l'Ouest, club de Guinée, entraîné par Victor Zvinka. On aura donc deux Français face à face, parce qu'on rappelle que le national du Caire, Al-Ahly, c'est Patrice Carteron. Et depuis qu'il est arrivé, Patrice Carteron, c'est 12 matchs, et pas la moindre défaite. Donc il a plutôt bien pris. Il a déjà remporté la Ligue des Champions avec le TP Mazembe. Bah, il a très envie de redonner au national du Caire ses lettres de noblesse, parce que ça fait un petit moment que l'équipe Carotte cherche un nouveau sacre, un neuvième sacre dans cette Ligue des Champions.
Patrick, Al-Ahly, c'est peut-être l'épouvantail de la compétition un peu pendant longtemps, et on va y venir. Il y a eu le TP Mazembe qui dominait vraiment la compétition. Lui, il a les corbeaux, ce sont 5 trophées, hein. Mais le Al-Ahly, c'est aussi une tradition, disons, avec un très bon parcours grâce à cette équipe, avec
oui,
Carteron.
Carteron, effectivement, après un très mauvais départ d'Al-Ahly dans les phases de poule, avec un nul, une défaite, a repris l'équipe le 12 juin. Donc ça fait à peine 3 mois.
12 matchs.
Et depuis, elle n'a pas perdu, comme l'a dit Olivier. En Ligue des Champions, elle a gagné les 4 matchs de poule qu'elle a eu à jouer sous la direction du Français. Donc c'est un vrai redressement, incarné par un homme, Salif Koulibaly, le défenseur malien qui était en fin de contrat au tout-puissant Mazembe, qui est venu et qui non seulement défend très bien et commande bien cette défense, mais marque des buts, notamment de la tête. C'est un joueur assez physiquement assez impressionnant, hein. Donc voilà, ça, il y a tous les ingrédients. Le petit stade du 28 septembre de Conakry risque de sonner un peu creux. Bah, je suis pas sûr que malheureusement il y a eu déjà un match de l'équipe nationale qui ait beaucoup de monde. On l'espère pour le
Peut-être
Oroya.
Peut-être que le Oroya quand même drainera plus.
J'espère, mais je crains que ça soit un peu une ambiance un peu pas à la hauteur de l'événement. J'espère que
les faits me démentiront. Fait partie des rares équipes sur le continent. Elles ne sont que 4 à avoir 2 victoires en 2 matchs.
Exactement.
Dans la CAN, donc ça
a battu la Centrafrique, la Guinée, ce week-end. Et donc voilà, c'est un vrai choc. Maintenant, il faut espérer que le Oroya confirme ses progrès récents. Quoi.
On a un Sétif, donc le club, le S Sétif d'Alger, contre le Wydad Maroc, alors le champion marocain en titre.
Hein, d'Algérie, parce que c'est Sétif, mais c'est vrai que là encore, on a encore 2 anciens vainqueurs, chacun l'a remporté 2 fois. C'est marrant, tous ces clubs, 5 des 8 quarts de finalistes ont déjà remporté, et notamment pour les équipes nord-africaines qui ont trusté, hein. Il y a eu 20 Ligues des Champions jouées depuis 1997, les clubs nord-africains en ont gagné 12, mais c'est vrai que pour Sétif ou pour le Wydad Casablanca, il y a eu une victoire dans les années 80-90, et hop, la deuxième victoire, oui, elle est récemment,
voilà.
Il y a
2014 pour Sétif, ouais, et l'an dernier pour le Wydad.
Ça, c'est un beau choc nord-africain.
Ils sont les tenants du titre. Ouais. Et puis alors, on a, parce que ce club nous tient particulièrement à cœur, ce sont les corbeaux du TP Mazembe, Olivier, RDC, ils se retrouvent en Angola, Primeiro de Agosto.
C'est le seul club à ne jamais avoir remporté parmi les 8 quarts de finalistes de Coupe d'Afrique des clubs. Primeiro de Agosto, ils ont été finalistes de la C2, ce qu'on appelait la Coupe des Coupes, c'était en 98. Le TP Mazembe vient de remporter 3 Coupes d'Afrique des clubs ces 3 dernières années. Ligue des Champions 2015 et Coupe de la Confédération 2016-2017. Donc on est vraiment sur une place forte du football africain face à l'invité surprise un peu de ces quarts de finale.
Attention quand même, Primeiro de Agosto qui a bien fini la phase de poule, qui est notamment aller prendre un point à Sousse contre l'Étoile du Sahel, ce qui est jamais facile. Et le TP Mazembe, je trouve un peu, quand même, il a perdu de sa superbe. Il y a Ben Malongo, certes, qui est co-meilleur buteur de la compétition avec 7 buts, mais je trouve un peu léger par rapport à ce que c'était à l'époque de Samata, Mputu et, oui, et tout ça.
Mais on connaît aussi les conditions difficiles dans lesquelles désormais évolue le club des Corbeaux.
Tunisien pour le dernier.
Voilà, exactement.
Un classico.
L'Espérance de Tunis contre l'Étoile du Sahel, là encore, il y a 2 anciens vainqueurs.
Il y aura de quoi dire.
Une prochaine fois.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci messieurs, merci madame.
Merci
aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, avec Pierre Guérin. Guillaume Ploquin était à la réalisation. À demain, Café des Sports.